Alors, Pierre-Yves, évidemment, la nouvelle du jour, le grand patron de Desjardins, M. Guy Cormier, qui a annoncé qu'on avait congédié un employé qui avait littéralement volé des informations personnelles de 2,9 millions de membres sur un éventail de 7 millions de membres.
C'est énorme, mais il faut comprendre comment ça fonctionne, l'institution financière, au niveau des contrôles. Il y en a tellement. Tu sais, t'as des contrôles de prévention et de détection. Exemple, prévention, on va t'empêcher d'avoir accès à des données sensibles auxquelles tu n'as pas besoin d'avoir accès pour ton travail. Par exemple, je sais pas, moi, tu fais les états financiers comme moi je faisais à l'époque, j'ai pas besoin d'avoir accès aux données privées des clients dont leur nom et leur courriel, donc je n'avais pas accès de façon préventive, tu comprends? Et il y a d'autres contrôles de détection qui sont, on valide, par exemple, qui a accès à des données. Donc, par exemple, tu regardes tout le monde qui se sont enquêtés ou qui ont tenté d'avoir accès à des données au cours du mois, et tu regardes s'il y a une logique dans le volume puis dans les affaires. Ici, on dit qu'il s'est arrangé pour avoir accès aux données d'une façon peut-être complémentaire. Ça peut être en disant à un collègue de travail, « Hey, peux-tu m'imprimer telle affaire, me downloader telle base de données? J'en ai besoin pour faire telle chose. » Et il a réussi, avec l'aide de quelqu'un qui le faisait peut-être pas par volonté ou par malversation, à avoir des accès des fois. Ça peut être en volant aussi. Donc, pourquoi l'employé fait ça? Mais parce que ça se vend. Des données personnelles permettent, par exemple, de contracter des contrats avec des fournisseurs de services partout dans le monde et de frauder des gens. Et avec les données personnelles, parfois, on peut y arriver. Évidemment, il n'y a pas notre NIP, mais il y a nos données pour commencer. Et là, si vous me dites, Pierre-Yves, j'ai peur, la première des choses, Desjardins vous donne en masse d'aide. Ça veut dire qu'on va vous aider à avoir accès à une validation, à une protection de vos données pour voir si vous avez été piraté quelque part. Mais moi, je vous dirais, hey, dans la vie, là, que vous soyez avec Desjardins ou non, que vous soyez touché ou non par la situation, regardez son dossier de crédit une fois par année. Allez voir son score évolue comment. Allez voir la liste des engagements qu'on a eus. Et allez voir les traces une fois par année pour voir, coudonc, y a-t-il quelqu'un qui tente d'utiliser mon nom ou mes choses pour faire des mauvaises actions? Ben, ça aide des gens en partant à se protéger. Et ici, pourquoi l'employé fait ça? Ben, tu sais, il peut avoir une tête de jeu. Bande de drogue, il peut avoir un lien avec le crime organisé, il peut avoir l'appât du gain facile, il peut être approché par des gens qui leur disent « Hey, tu me donnes ça, je te donne tant de dollars par nom, par donné. » Donc, derrière ça, il y a un être humain qui a été tenté d'utiliser. Tu sais, quand tu vois l'argent passer dans ta face toute la journée, ou les données financières, il y a des gens qui sont des fois tentés justement de, je sais pas, tu sais, Paul, passer de l'autre côté, le côté obscur de la force, tu sais, et de tricher.
Et il y a peut-être, cet individu avait probablement des intérêts à le faire. C'est-à-dire que
financier surtout, oui, j'espère. Sûrement,
c'est ça. Sa motivation était peut-être là.
Mais on n'a pas de détails parce qu'on dit que ça pourrait nuire ça pourrait nuire à l'enquête. On ne veut pas divulguer, mais en somme, tu sais, dans une banque, je peux te dire qu'il y a beaucoup de contrôle en amont. On fait même une enquête de crédit pour savoir est-ce que tu es ou est-ce que tu es potentiellement quelqu'un qui pourrait nuire à l'institution en ayant un mauvais dossier de crédit. Parce que si tu as un mauvais dossier de crédit, tu peux être plus tenté de tricher et de nuire à l'entreprise en volant parce que justement, tu as besoin d'argent. Donc, on fait même une enquête de crédit lorsque vous entrez dans une institution financière.
Nous allons parler maintenant de l'ex-patron d'Otera. Otera, c'était qui se spécialisait évidemment dans le financement hypothécaire, une des branches en fait de la Caisse de dépôt et de placement avec Ivanhoé Cambridge. Et bien là, l'ex-dirigeant de sa filiale, Otera Capital, congédié à la fin du mois de mai, réclame pas moins de 7,35 millions de dollars à la Caisse de dépôt.
On dirait un premier centre du Canadien de Montréal, Paul. Non, c'est en fait... On peut se dire la chose suivante. La personne est congédiée, elle poursuit. Bon, c'est une chose. Mais côté caisse, ton président de ta filiale, un président, c'est un porte-étendard. Il doit être hors de tout doute raisonnable dans l'absolution totale de malversation ou de comportement non éthique ou d'apparence de conflit d'intérêt ou de n'importe quoi. Et il doit s'assurer qu'il y a des contrôles en place dans son entreprise, qu'il y a des comportements et tout ça adéquats. Donc, dans une entreprise, le PDG perd son poste pour deux raisons. Il y a apparence de problème ou il y a effectivement des erreurs en dessous et il se retrouve coupable par association, pas coupable, mais plutôt responsable. Dans ce cas-ci, on nous dit que M. Gracefa a fait des manquements éthiques personnellement, c'est-à-dire que dans sa gestion d'entreprise, il n'a pas non seulement manqué de contrôle à l'interne pour empêcher des employés de faire des drôles de transactions. Lui-même a fait des actions bizarres, tu sais, comme par exemple un échange cash de 15 000 $ dans ton bureau. même si c'est à des fins personnelles, puis que tu fréquentes des gens qui sont liés au crime, veux pas, tu ne peux pas, en tant que caisse dépôt de placement du Québec, être associé de près ou de loin dans une barre de 10, 15, 300 pieds à cette personne-là. Et donc, il y a tout ce qu'il faut pour le congédier, parce que Paul, quand on regarde un code d'éthique qu'on signe à l'entrée dans une entreprise, il est marqué qu'on ne fait faire aucun geste, aucun lien, aucune action qui pourrait nuire à l'image de l'entreprise. Donc, c'est facile qu'on congédie quelqu'un de toute façon, déjà en partant quand tu es le président et que tu agis de façon, disons, limite au niveau éthique.
Ouais. Et terminons avec la fraude de l'amitié.
Ben oui. Il y a quelqu'un aujourd'hui, je reçois un courriel, la personne me dit « J'ai des problèmes de santé, mais je voudrais pas en parler à personne. Ça peut-tu rester confidentiel? On peut-tu se parler? » Je dis « OK, appelle-moi après 2 heures. T'sais. Ah non, je peux pas t'appeler, mon cellulaire fonctionne pas. J'aimerais mieux qu'on fonctionne par courriel. » Bon, voici une fraude. Ça, c'est le genre de fraude qui peut arriver justement quand on vole les données personnelles. Un peu ce qui peut arriver avec Desjardins. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur le courriel de quelqu'un que je connais. Et là, on me dit « Écoute, tu peux-tu aller dans un IGA ou un bureau de tabac ou quelque part où ils vendent des coupons NeoSurf? » C'est quoi ça, des coupons NeoSurf? C'est une espèce de... Ouais, c'est une espèce d'affaire qui existe dans le monde, tu sais. Dans le fond, une espèce de coupon ou des cartes de 250$, tu vois, ou des coupons de 250$, des codes qui te permettent d'acheter en ligne à des endroits, mais on ne sait pas, il n'y a pas de trace de... C'est comme au porteur, il n'y a pas de trace d'identité. Donc, ouais. Un fraudeur qui fraude quelqu'un qui te demande « Achète-moi 5 cartes à 250$, NeoSurf que je puisse dépenser. » Ce qu'il est en train de te dire implicitement, c'est qu'il va te voler, puis quand il va dépenser avec ses cartes de 250$ prépayées ou ses codes de prépayés, il sera pas identifiable, il n'y aura pas ses données personnelles. Donc, c'est ça un peu qui peut arriver. Tu vois? Il m'appelle, il me texte, là, j'y réponds. Évidemment, moi, j'ai continué jusqu'au bout, Paul. J'aime ça, niaiser les fraudeurs.
Oui, je comprends.
Donc, j'ai dit, oui, je suis allé, j'ai fait ça, oui, je vais te les envoyer. Là, il me répond, il disait, hey, j'ai pas reçu tes codes. Ah non, je te les ai envoyés dans un autre courriel. Moi, je leur fais perdre leur temps, tu comprends. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, souvent, pour détecter la fraude de l'amitié par un courriel, c'est que la personne t'a dit, je peux pas te parler au téléphone. Et votre premier réflexe, ça doit être d'appeler votre ami au téléphone, il va vous répondre, puis il va vous dire, ben non, j'en ai pas de problème.
Exactement,
j'ai pas besoin
exactement, ça se vérifie en 30 secondes.
Oui, mais il te le dit dans le courriel, parle-moi pas, tu sais.
Ben en tout cas, je tiens à dire que Pierre-Yves Beckswin, notre amitié n'est pas une fraude, et non, non. Malheureusement, c'est la dernière fois qu'on se parle.
Professionnel la semaine, mais Paul.
Du moins à cette antenne.
Oui, mais on peut se revoir la fin de semaine. Tu peux m'inviter parfois, j'allais te voir à ton spectacle ça, de fin de semaine.
Ça, il n'en tient qu'à toi, parce que je vais certainement te transmettre l'invitation. C'était un réel plaisir, Pierre.
Oui, plaisir. Merci, Paul, de ta patience puis de ton ouverture à m'accueillir. Le plaisir qu'on a eu pendant les années.
C'était réciproque, dans le sens que tu nous as initié à une nouvelle façon de voir nos affaires personnelles. Puis je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, parce que tu sais, tu reçois beaucoup de courriels et beaucoup de questions qui ont été mieux informés et qui ont certainement profité de ce que tu nous as donné comme chronique ici au Québec maintenant. Merci beaucoup, Pierre-Yves.
Merci, Paul, à toi. Salut.